Ouais, j'ai quand même une question. Les quartiers de Tours, ce qu'on remarque, c'est que il n'y a jamais eu une tour isolée. Les tours amènent les tours. Et il y a des pans entiers de territoire où il n'y a pas de tours. Par exemple, en Europe, il faut vraiment chercher pour trouver quelques quartiers de tours assez élevés. Est-ce que c'est notre système de droit qui empêche ça? Puisqu'on sait bien qu'à New York, c'est parce que la hauteur se négocie avec le voisin qu'elle a été rendue possible, une fois que l'ascenseur a été inventé. Ou est-ce que ça relève d'autres choses, je ne sais pas, de dynamiques économiques propres au pays sur laquelle ça a lieu, enfin,
Alors, déjà, à New York, c'est uniquement à partir de 1916 que la hauteur se négociait avec le voisin. Avant, il y avait un système qui était assez bizarre, qui était un système où, en gros, du premier qui tirait, vous aviez un terrain un carré, vous pouviez monter, et le type d'à côté, vous lui faisiez de l'ombre, mais c'était dommage pour lui. Jusqu'en 1916, où on a livré un immeuble imposant qui s'appelle l'Equitable Building, et cet immeuble a fait de l'ombre à tout le quartier, parce que c'était un terrain rectangulaire, ils ont fait un immeuble en forme de hache. Donc ils ont essayé de maximiser le plan masse sur un étage, sauf qu'ils ont fait ça sur 50 étages ou 40 étages. Et donc après ça, effectivement, on a eu à négocier à la fois avec les voisins, mais surtout il y a eu l'imposition de recul, ne serait-ce que pour laisser passer un minimum de lumière. Alors c'est pas du tout du H égale L comme on peut le trouver dans les PLU chez nous, parce que c'est H égale H plus je sais pas combien égale L moins je sais pas quoi avec un angle, mais c'est un peu ça. Mais pour revenir à ta question, déjà, il y a un élément économique qui est très très important sur la pertinence d'une tour. Aujourd'hui, le modèle de développement des immeubles de bureaux en France est plutôt un modèle non pas de gratte-ciel, mais de ce qu'on appelle les low-rise buildings ou des gratte-sol. Ce sont des immeubles qui sont surtout pas IGH. Parce que le coût d'exploitation d'un immeuble IGH impacte sur le revenu locatif et lorsque on a une vision financière des choses, on demande au locataire on lui refacture toutes les charges. Donc on lui refacture les charges, en gros, de la caserne de pompiers qu'on a dans l'immeuble. Donc pour pouvoir, et ce qui fait que si vous avez un immeuble qui n'est pas IGH à Pantin, et par rapport à un immeuble qui est IGH, il y aura peut-être 100 euros d'écart. Et comme le marché locatif à Pantin, il est plutôt de l'ordre de 200 ou 280 ou 300 euros, ça fait un peu d'argent. C'est peut-être excessif, 100 euros, mais l'ordre de grandeur ne doit pas être loin. Donc du coup, à un moment donné, pour que ce soit pertinent de faire une tour, il y a une espèce de trou noir, c'est-à-dire qu'on fait IGH au max, et après, il faut au moins passer à 20 étages, mais entre les deux, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc c'est binaire, c'est-à-dire que soit on fait un non-IGH, soit on fait vraiment une très très grande tour. Alors, l'exemple de tour isolée, c'est pas vrai, parce que si tu prends l'exemple parisien, on verra ça demain, parce qu'on n'y sera pas loin, il y a une espèce d'hérésie urbaine qui s'appelle la tour périphérique, qui est à Aubervilliers, qui est une tour qui est toute seule. Moi, j'ai toujours pensé que la seule pertinence en matière de stratégie d'acquisition de cette tour, c'est de l'acheter, de couper le haut juste en dessous de l'IGH et de le foutre par terre. Pourquoi? Parce que la tour est structurellement vide à 40%, donc elle a jamais été pleine, donc ça ne sert à rien d'avoir construit tout ça, et elle coûte cher parce que c'est un IGH. Il y a les tours mercuriales qui ont été construites à Porte de Bagnolet dans les années 70. Bon, elles ne sont pas isolées parce qu'elles sont jumelles, mais il n'y a rien eu d'autre tour. Donc on a, et il y a la tour Montparnasse à Paris qui reste isolée aussi. Donc d'un point de vue économique, il vaut mieux avoir une densité du marché de bureaux parce que ça crée un vrai marché local, de l'émulation, de la souplesse et de la respiration, et c'est mieux. Lorsque la plaine Saint-Denis s'est développée, où on sera pour partie demain, je me suis toujours interrogé sur. Je vais vous faire une présentation qui vous parlera de ça. Je me suis toujours interrogé sur est-ce qu'il fallait ou non faire plus dense que ce que ça ne l'est à la plaine Saint-Denis, parce que je trouvais qu'on consommait trop de sol. Alors je ne sais pas si c'est dans celle-là ou pas, donc je vous demande un petit peu de patience. Qu'on consommait trop de sol. Et je me suis dit que ça aurait été bien à la plaine Saint-Denis. Il y a l'exemple de la tour Pleyel qui est aussi isolée, mais tout ce qui a été fait dans le Landy, ce sont des immeubles. Non, c'est pas dans celle-là. Sont des immeubles plutôt qui sont très très consommateurs de surface. Je vais vous faire voir ça, je vous montre juste 30 secondes. Suis désolé, mais un schéma vaut mieux qu'un long discours. Ouais, non, ça doit être dans l'autre alors. ça. Voilà. Donc là, vous avez l'agglomération, enfin la région parisienne. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2002. Donc, vous avez en gros trois typologies d'immeubles de bureaux à Paris. Vous avez où vous allez aller demain, Saint-Denis, en haut, 260 euros du mètre, et le parc existant est de 600 000 m². Vous avez la Défense à l'époque, 430 euros du mètre. On n'est pas loin de revenir à ça aujourd'hui. Ça, c'était en 2002, à mon avis, ça doit être valable aujourd'hui. Un parc d'un million d'euros. Vous aviez le quartier central des affaires, où en moyenne, ça c'est autour de l'Opéra, on était à 540 dans ce type d'immeuble-là, sachant qu'à l'époque et maintenant, c'est plutôt 700 pour les immeubles les mieux, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Et vous aviez le quartier de Montparnasse, où vous étiez plutôt à 460. Pourquoi ces quatre zones sont caractéristiques? Parce qu'elles sont caractéristiques d'une typologie d'immeubles de bureaux. Vous avez le quartier financier parisien, qui est au sud, qui est pour partie au sud du 9e arrondissement, qui est un quartier haussmannien d'habitation, et voyez en bleu la densité des immeubles de bureaux qui principalement ont été faits via des repossessions d'immeubles haussmanniens où on a enlevé l'habitation pour y faire des bureaux. Donc vous avez une idée du plan Mars que vous voyez en bas. Donc c'est un immeuble qui était victime de façadisme, on a gardé les façades qui ne sont pas que haussmanniennes parce que les façades années 30, on l'a tout pété, on a refait une trame, un peu Palais Royal à l'intérieur, de façon à densifier. Vous voyez qu'il y a des parties de bar qui ne sont pas très épaisses, où il y a simplement un couloir central et un bureau de chaque côté, et des parties plus épaisses où vous avez un bureau au centre. Je passe très vite. Là, vous avez l'exemple à la Défense, qui est la tour EDF, où vous avez une espèce de gros noyau central, parce qu'il faut plein d'ascenseurs pour desservir tous les étages, et des bureaux en premier jour tout autour. Vous avez l'exemple de Montparnasse, qui est une troisième typologie, qui sont des immeubles années 110, mais dits administratifs qui ont été rénovés, restructurés, donc il y a énormément de contraintes, c'est bas sous plafond, c'est pas très bien, etc. Et vous avez le Landy, où là, vous avez un tissu plutôt industriel en violet, donc là, il y a plein de terrain, on fait ce qu'on veut et on s'étale. Quand on regarde ce que ça donne d'un point de vue de comparaison de plan masse, donc ça, c'est l'étage courant de chacun des immeubles. Donc la première conséquence, c'est que si vous voulez trouver 1000 m² sur un étage courant, qui est le pointillé bleu, vous pouvez soit prendre l'ascenseur si vous voulez 2000, soit circuler horizontalement si vous êtes dans le Landy, dans la plaine Saint-Denis, parce que vous voyez que l'étage courant fait bien plus que 1000 m². Mais surtout, au niveau de la verticalité, si vous voulez offrir 10 000 m² à un seul preneur dans ces immeubles-là, parfois ça reste possible, parce que là j'ai pris uniquement de gros immeubles, mais vous voyez que sur le Landy c'est un plateau et demi, et sur la Défense c'est plusieurs plateaux. Mais ce que l'on voit bien là, c'est l'emprise foncière, l'emprise au sol d'une tour, comme est la tour EDF à la Défense, et l'emprise au sol de l'immeuble du Landy. L'immeuble du Landy c'est 35 000 m², celui-là ça doit être Innovatis 2, et la tour elle doit faire au moins 50 000 m² celle-là. Donc il y a un vrai sujet. Au-delà de ce que tu dis, c'est-à-dire de consommation de foncier. Est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher le foncier à cet endroit-là? Et est-ce qu'on ne devrait pas tout de suite commencer par du très dense? Mais le problème, c'est que c'est un risque énorme. Et donc, personne ne prendra le risque d'aller développer une tour toute seule à cet endroit-là. Les seuls exemples qui existent aujourd'hui sont des exemples en habitation, notamment à l'étranger, l'exemple qu'on a vu à Manhattan, enfin à New Jersey. Mais je ne sais pas ce qu'on pense, Marc, mais je vois mal quelqu'un aller inventer une densité dans un nouvel endroit, même si le pays lui autorisait. Mais bon, il faut garder de l'humilité, ça peut changer dans l'avenir, puisque aujourd'hui, il y a un vrai débat sur la verticalité, sur la densité à Paris. La ville de Paris a accepté de déroger à la règle des 37 mètres et de faire des immeubles de 50 mètres, uniquement dans la périphérie pour l'instant. Avant la crise, ici les Moulineaux, Levallois avait des projets de tours. Donc l'exemple des deux tours de Levallois, c'est vraiment un exemple tel que tu le cites, une tour vient de nulle part. Pour que ça se réalise, il faut à la fois la volonté de l'élu, mais il faut qu'il y ait un preneur de risque capitalistique qui accepte de mettre des fonds propres, et il n'acceptera de le mettre que si il y a un prêteur en face qui va le faire. On a eu, on a passé trois ans où on a beaucoup entendu parler du renouveau de la Défense, où il y avait à peu près 10 projets de tours qui devaient sortir. Aujourd'hui, par charité, on limite ça à 5 projets. Et il y avait un article dans la Tribune ce matin qui s'interrogeait sur la réalité de ces projets, est-ce qu'ils allaient développer, et qu'on identifiait déjà 2 sur 5 qui n'avaient aucune chance de se faire, parce que de toute façon, il n'y avait pas de financement. Et les seuls qui allaient être faits, c'est ceux pour lesquels les gens avaient déjà tellement investi, parce qu'ils avaient acheté un immeuble existant qu'ils devaient rénover, et qu'ils allaient le faire derrière. Vous avez remarqué que les réponses sont beaucoup, beaucoup plus longues que les questions. Pas de questions?
L'arrivée dans le actuellement de building, de green building ou de building qui soit capable de produire de l'énergie. C'est un rêve comme l'était la voiture hybride il y a 15 ans. C'est quelque chose qui change un peu l'approche qu'ont les constructeurs de la rentabilité ou disons des cahiers des charges qu'ils imposent lorsqu'ils imaginent des nouveaux buildings.
Je vais essayer d'être court et je vous fais une réponse datée de 3 mois et une réponse datée de maintenant. Réponse datée de 3 mois, dérive des coûts d'énergie, et les coûts d'énergie impactent vraiment les locataires, donc se sensibiliser à la capacité d'avoir des immeubles qui sont efficients d'un point de vue énergétique, c'est une façon d'améliorer les flux nets de revenus qui viennent des immeubles. Donc c'était vraiment un élément important dans la réflexion sur la conception d'immeubles de bureaux, de se dire on peut avoir un immeuble qui est plus attrayant pour les locatifs, c'est-à-dire qui va se louer plus cher, qui va se louer mieux, qui sera moins sujet à la vacance demain, et donc c'était une bonne chose. Dans cet ordre de grandeur, on avait déjà vécu une phase où on améliorait la qualité d'un immeuble en rendant plus efficient dans le nombre de personnes qu'on pouvait mettre au mètre carré. Alors on n'en est pas là, mais on essayait de passer d'une perception d'un coût locatif au mètre carré à un coût locatif à la personne. On n'y est pas arrivé, mais c'était dans cette tendance-là. Donc ce sont des choses qui fonctionnent et qui sont susceptibles d'impacter la demande dans la production. Au-delà de ça, on a assisté de façon assez réelle, surprenante, parce assez réelle, d'investisseurs notamment allemands qui exigeaient d'avoir dans leur patrimoine un quota d'immeubles qui était, qui avait un bilan carbone intéressant, qui était efficient. Donc à la fois pour le marché locatif, mais pour la demande des investisseurs, c'était un facteur de progrès ou de meilleur positionnement des immeubles. Bien évidemment, ça aboutissait à un surcoût qui, contrairement à l'industrie automobile, ne pouvait pas être absorbé par les économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on achète des voitures qui coûtent pratiquement le même prix en franc constant, et elles sont de mieux en mieux, elles ont encore plus d'options, d'airbags, de machin. Pour le bureau, c'est un peu plus compliqué, d'autant que ce surcoût lié à l'efficience des immeubles s'ajoutait au coût de d'hyperinflation des coûts de production qui était lié en fait à un boom économique et à une rareté des constructeurs, lié à des ententes aussi des constructeurs. Donc ça devenait, il y avait une motivation pour le faire, c'était un peu la quadrature du cercle d'un point de vue économique. Pour vous donner un ordre de grandeur, construire une tour à la Défense aujourd'hui, construire un immeuble de bureau avec l'évolution, l'inflation, etc., ça devait coûter à la grosse, pour faire simple, 2500 euros du mètre, une tour à la Défense, immeuble vertical, sécurité, efficience, machin, etc. On était à 3500, voire 4000 quand on faisait pas gaffe si les constructeurs s'étaient entendus avant de vous répondre. Donc ça devenait très très compliqué parce que ça laissait peu de place pour la marge et même pour le foncier. Or le foncier à la Défense, il se paye puisqu'il y a les droits à construire, ils sont payés à l'EHPAD. Donc on avait cette limite-là. Aujourd'hui, ça ne durera peut-être pas, mais les coûts d'énergie ont tendance à baisser, donc on va y être moins sensible. Les investisseurs allemands, ils sont victimes d'une décollecte parce que les Allemands prennent leur pognon des fonds allemands pour le mettre à la banque parce qu'ils sont protégés à la banque et pas dans les fonds allemands. Donc ils sont obligés de rendre de l'argent, donc ils n'achètent plus d'immeubles. Les projets de tours sont vécus comme des espèces de projets pharaoniques qui ne font pas de sens si on n'a pas une perception de leur pré-commercialisation. Si on n'est pas sûr de pouvoir les louer, on ne va pas les construire. Et donc, là, du coup, il n'y a plus de demande locative. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire en blanc, en vierge, un immeuble qui sera hyper efficient s'il n'y a pas de demande derrière. Donc ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas trop. Alors, il y a tout un tas de réflexions sur les toits, surtout sur les immeubles très plats, comme les centres commerciaux. Est-ce qu'on peut y foutre des trucs solaires pour avoir de l'énergie, etc. Mais ça reste un petit peu marginal. Donc ce débat, il est complètement pollué par l'omniprésence de la crise aujourd'hui. Monsieur, madame.
Je voulais vous demander s'il y avait un type d'aménagement urbain en période de crise comme celle qu'on reconnaît. En gros, est-ce que la crise va impacter finalement l'architecture ou est-ce que simplement on verra les projets se décaler dans le temps? Est-ce que ce bien va rester vide pendant longtemps ou est-ce qu'on verra autre chose que ce qu'on aurait vu il y a 2 ou 3 ans?
C'est une question passionnante d'essayer de comprendre comment le positionnement en cycle économique peut, ou dans l'évolution des choses, peut impacter le type d'aménagement qu'on est capable de faire. Je pense que ça sera ma réponse très générale et très réductrice et caricaturale, mais en gros, on a longtemps vécu en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier en France, c'est un marché depuis une trentaine d'années. Avant, c'était une activité administrée qui était soit, en gros, pour faire simple, du résidentiel fait par l'État, ou des sièges sociaux faits par l'entreprise qui les produisait elle-même pour les garder elle-même. Donc, c'est uniquement au début des années 70 qu'on a commencé à faire du bureau en blanc et qu'on a eu un peu ensuite, dans les années 80, la décentralisation, la déréglementation bancaire, où c'est devenu vraiment une activité et un marché. Et donc ça a commencé à respirer. Et on a connu, on est censé sortir du monopole public dans l'aménagement. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de citer beaucoup, beaucoup d'exemples pertinents des réalités d'aménagement public aujourd'hui dans l'aménagement. Bon, le seul exemple de taille auquel je pense quand je réfléchis à ça, c'est la Principauté de Monaco qui est en train de réfléchir et de faire un appel d'offres pour trouver des gens capables de construire une dalle sur la mer, quitte à leur refiler droit à construire derrière pour qu'il s'y passe quelque chose. Mais je n'ai pas d'autre exemple d'aménagement purement privé aujourd'hui. Donc la vision que j'ai de l'impact du cycle, du banc le cycle sur l'aménagement, et reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une volonté, un peu comme pour pallier un manque d'équipement, de pallier un manque d'hébergement tertiaire, où en gros les villes voulaient se faire des petits quartiers de bureaux, des machins, donc on faisait des ZAC, où on faisait des immeubles de bureaux. Après on avait des zones d'aménagement qui étaient liées à des infrastructures toujours, autour de gares, où en gros on inventait du foncier nouvellement pertinent, on essayait d'organiser et de maîtriser ce qui s'y passait, à la fois parce que c'était créateur de valeur, mais parce qu'on voulait contrôler l'évolution du quartier, on intervenait comme ça. J'ai tendance à penser que ces dernières années, avec la perception que ce qui était risqué, c'était quand même de faire du bureau, parce que la demande était assez incertaine, ce qui n'était pas risqué, c'était de faire de l'habitation, mais ça, les détenteurs fonciers ou les collectivités locales le savent, donc elles le gardent comme poire pour la soif, comme élément de négociation avec le privé, en échange de l'endonnant. Il y avait un autre truc qui n'était pas du tout risqué et qui correspondait vraiment à une demande, qui était le commerce, qui soit le commerce de proximité ou les mégastores dans les villes. Donc le type d'aménagement qui était censé émerger de ça était un aménagement un peu de millefeuille où sur un bloc on faisait un petit peu de tout. On faisait peut-être pas une médiathèque, un peu d'habitation, un hôtel, un commerce, mais on faisait un petit peu de tout comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez, d'un point de vue symbolique, notable de voir que la plus grosse société de promotion qui s'appelle Nexity a pris un nom qui était en gros assez annonciateur de la ville future qu'ils étaient censés construire. Donc on passait de la production d'immeubles à un petit peu la production de quartiers, de petits blocs. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser que ça va être compliqué. Ça va être compliqué et que si je dois visualiser l'image et l'impact, c'est la dent creuse, quoi. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer. Et l'autre dimension... La dimension positive qu'on peut avoir, c'est que, mais c'est très peu le cas à Paris ou en France, que je ne connais pas le cas. C'est le cas à Casablanca, je suis désolé de parler beaucoup de Casablanca, mais à Casablanca, il y a beaucoup de foncier qui n'est pas réalisé parce qu'on a des propriétaires qui sont irrationnels et qui pensent qu'ils ont une très très haute idée de la valeur de leur bien, ils ne veulent pas le vendre et ils ne sont jamais déjugés par l'histoire puisque le temps leur donne raison. Le fait qu'on soit dans une possible inflexion peut amener des gens qui étaient assis durablement sur du foncier à une espèce de raison économique et rendre des fonciers plus réalisables. Donc ça peut diminuer l'impact des coûts fonciers dans les projets parce que les gens n'ont pas d'autre alternative que d'essayer de valoriser leur foncier. Donc ça peut un peu faciliter les choses. Ça va être un peu une forme d'éradication de la pression des coûts sur le foncier. Mais j'ai peur aussi que dès que le crédit va revenir, il y a tellement d'argent disponible qu'on va repartir comme en 40 et que les prix vont repartir derrière.
Moi, j'avais une question sur les éventuels transferts entre immobilier de bureau et immobilier résidentiel. Il y a régulièrement cette idée qui ressort de... je parle du stock, hein, donc sur le parc d'immobilier de bureau qui serait vétuste, d'éventuelles possibilités de reconversion en logement. Est-ce que... cette idée, c'est typiquement une fausse bonne idée, pas réaliste, ou est-ce que elle peut être réaliste dans certaines conditions, selon certains critères? Par rapport à cette question, comment est-ce que le contexte actuel peut influencer la réponse?
C'est une idée qui est centrale dans l'aménagement urbain, parce que, en gros, historiquement, on peut opposer une consommation de foncier pour faire des friches tertiaires. Alors, les friches tertiaires, c'est soit des immeubles qu'on a construits et qui se vendent pas, soit c'est des friches nocturnes. Vous allez dans le quartier du 9e arrondissement, là, où la nuit, il y a rien, il y a des bureaux. Vous allez à Seine-Rive-Gauche la nuit, il y a rien. Donc, c'est une question qui est très importante, qui est très prégnante. C'est une question qu'il faut revisiter en permanence. Si on l'aborde aujourd'hui d'un point de vue financier, le mètre carré de bureau qui s'est vendu le plus cher l'année dernière, il s'est vendu 17 000 euros du mètre, à peu près, pour faire simple. Aujourd'hui, si on arrive à vendre à 14 000, on est content. Donc là, on parle vraiment d'un truc super top, un bel immeuble avec une vraie localisation foncière, et un locataire de très grande qualité qui ne fera jamais faillite et qui va payer le loyer durablement. Les prix, quand j'étais petit, les prix immobiliers à Paris, ce n'était pas compliqué, c'était en gros 10 000 francs du mètre, quoi. On savait à peu près ce que c'était. Aujourd'hui, c'est plutôt 6 000 euros du mètre, plus ou moins 1 000 euros en fonction du truc. Mais il y a l'émergence d'une espèce de hors-marché résidentiel à Paris où vous pouvez payer 15 000, 20 000, 25 000 parce que vous avez des choses exceptionnelles, notamment liées à la qualité de l'exposition, de la localisation et du projet qui y est fait. Donc on arrive à un moment qu'on n'a pas connu auparavant où intrinsèquement le prix de sortie de l'habitation, dans certains cas de figure, peut être supérieur à celui du bureau. Alors ça veut dire que quand on croise ça avec le fait que l'habitation c'est censé être moins risqué que le bureau, ça peut être tentant. Sauf que dans ce segment-là, le segment de haut de gamme est beaucoup plus risqué que l'habitation en général. Ce qui n'est pas risqué en habitation, c'est de l'habitation en périphérie à 2500 euros. L'habitation haut de gamme, c'est une activité qui est très risquée. Alors, est-ce qu'on va transformer massivement des immeubles de bureaux en immeubles d'habitation? Il y a un truc qui est un peu compliqué, c'est le coût de production des pièces humides et de redivision. C'est-à-dire qu'en gros, transformer un plateau de bureau en habitation, ça coûte cher en main d'œuvre, parce qu'il faut refaire des salles de bain, des cuisines, des machins, et en tuyaux à faire passer. Et quelque part, c'est une démarche qui est binaire, donc il faut déjà vider l'immeuble, donc se priver de revenus locatifs. Donc c'est une activité qui est pas efficiente, malheureusement, économiquement. Il faut vraiment qu'il y ait un énorme écart entre le prix de sortie de bureau et le prix d'habitation pour qu'on puisse avaler ces surcoûts de transformation. Alors ça existe parce qu'on a des immeubles qui, dans certains quartiers plutôt résidentiels de Paris, comme le 3e, le 4e arrondissement, où on a historiquement des anciens immeubles qui étaient des entrepôts un peu liés à la production locale, à la distribution, qui ont été vaguement transformés au bureau, mais plus personne ne veut y aller parce que c'est sombre, etc. Là, il y a peut-être des trucs à faire parce que le loyer de bureau à cet endroit-là, ça ne sera jamais que 250-300 euros et ça ne vaudra jamais très cher, donc là, c'est possible. Mais sur un super immeuble haussmannien, j'y crois pas trop. Oui ? Je ne veux pas vous donner l'impression que j'ai réponse à tout, j'essaie simplement de m'inspirer, de vous raconter.
Oui, non, simplement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur ce que vous avez dit aussi sur la désertification du 9e ou de Seine-Rive-Gauche, la nuit tombée, quand les bureaux sont vides. Que pensez-vous de certains projets de mixité justement sociale, enfin de mixité à l'intérieur même d'un immeuble de grande hauteur ou pas de grande hauteur? J'ai vu passer des projets où on a du commerce en pied d'immeuble, où on a des bureaux sur 5 ou 6 étages, ou peut-être 10, et où on a au-dessus du logement. Est-ce que ça se pratique couramment à l'étranger, et est-ce que ça vous paraît gérable?
Alors, il y a plusieurs questions.
Urbanistiquement et socialement.
Il y a plusieurs questions dans la question. Le type de bâti, c'est quelque chose qui est vernaculaire, qui dépend un peu de l'histoire et de ce qui se passe. Et cette histoire, elle est à la fois liée au quotidien des gens, mais aussi à la réalité économique de la situation. L'exemple type de la maison chinoise, c'est un commerce en rez-de-chaussée avec de l'habitation aux étages. L'exemple type de ce qui plaît à un investisseur d'immeuble de bureau, c'est un truc où il est propre. L'archétype, c'est l'Allemand qui veut investir dans un immeuble de bureau. Déjà, il n'a pas le droit d'acheter des copros. Il peut acheter des lots de volume, mais là, il veut vraiment être chez lui, décider de tout. Donc, il faut qu'il ait l'emprise foncière et l'immeuble. Après, au-delà de ça, ce qui est bien, c'est de faire soi-même son marché, c'est-à-dire de soi-même allouer son argent en fonction de risque. Donc, le type, il veut choisir que ça, il a acheté un immeuble de bureau où il n'y a que du bureau, et s'il veut de la mixité, ben, il achètera un autre immeuble où il n'y a que du commerce. Donc, la tendance de l'investisseur, en termes de structuration de produits financiers liés à l'immobilier, c'est plutôt la non-diversité. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce que lorsque vous prenez un immeuble hyper urbain, le rez-de-chaussée, il vaut beaucoup, beaucoup plus cher si c'est du commerce. Aux Champs-Élysées, faire du bureau au rez-de-chaussée, c'est une bêtise. Donc la mixité, elle existe aussi quand financièrement, il y a une vraie pertinence et un vrai intérêt. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Parce que quand on parle de mixité au sein d'un immeuble, c'est une mixité, c'est souvent un débat qui est attrait à la mixité telle que la pensent les élus dans l'usage du sol. Et là, en gros, c'est quoi? C'est bien de faire du bureau parce que ça génère de l'ATP. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu des municipalités qui préféraient faire de l'entreprise, de l'industrie, parce que c'était des cols bleus et pas des cols blancs. Mais ça, c'est un peu évolué. Mais il y a eu des cas comme ça. Et ce qui aboutissait à des hérésies. À Montreuil, ils ont construit un truc qui s'appelait Mosinor. C'est des locaux d'activité en étage. C'est joli, ça, mais ça ne sert à rien, quoi. Avec des rampes pour que les camions aillent dans les étages. Un truc fou. Et maintenant, ils font des bureaux dans le Bas-Montreuil. Donc, la mixité dont on parle, c'est celle-là. Et celle-là, elle a pour objectif quasiment de mettre dans le même immeuble, de refaire une ville dans l'immeuble, quoi. C'est-à-dire d'avoir des commerces en bas. Ils ont compris que c'était pas en haut, les commerces, c'est déjà une bonne chose, parce qu'il faut quand même qu'on puisse y aller. Donc, les commerces en bas, souvent un peu d'activité ou d'atelier en étage, des bureaux, et après, comme c'est super d'avoir la vue de l'habitation. Et il y a un architecte, enfin, des architectes qui s'appelle De Sapin et Leclerc, qui ont produit un plan masse d'une zone urbaine qui s'appelle Claude Bernard, qui est à la place d'un hôpital qu'on a dû démolir parce qu'il est trop près du périph, qui correspond en gros à ça. Pour être honnête, je ne sais même pas si je me suis posé la question de savoir si c'est bien en termes de façon de faire vivre la ville. J'aime pas trop le zoning, moi, quartier de bureau, quartier de machin, j'aime bien la mixité, mais j'aime bien la mixité. Un peu comme en Asie, où vous pouvez, la mixité, elle n'est pas territoriale, elle est faite par les immeubles, donc vous pouvez changer d'un immeuble à l'autre. Là, franchement, ça, ça intéresse personne. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans le débat entre les promoteurs, moi j'ai assisté à des débats entre les promoteurs et la ville sur ce truc-là, et la SEM, qui s'appelle, je ne sais plus, la SEM AS, ou je ne sais pas comment, celle du Nord, là, et les promoteurs étaient super faillots, quoi. Ils disaient, ouais, non, c'est super, et tout. Enfin, ils disaient pas que ça leur plaisait pas, parce qu'ils voulaient absolument avoir la charge foncière, et après, ils auraient renégocié. Comme si on leur avait dit qu'il fallait faire, je sais pas, faire des dégoulinés de la verdure de l'immeuble, parce qu'à l'époque, c'était important d'être vert dans les immeubles, ils l'auraient fait. Mais en gros, ça correspond pas vraiment, vraiment à une demande. Et ce qui est peut-être plus pertinent, c'est d'essayer de foutre, je sais même pas si c'est pertinent, la tendance, c'est plutôt de mettre des immeubles de bureaux en mur rideau pour enlever le bruit du périph et de l'habitation derrière. Mais si on fait ça, on renforce la fracture que crée le périph. Donc c'est pas un débat simple. Mais en revanche, l'autre niveau de mixité, qui est la mixité sociale, je pense que c'est quelque chose qui est très très difficile à atteindre pour une raison non anecdotique qui a été évoquée ce matin. C'est peut-être passé inaperçu, mais ce qu'a dit Eric Charles ce matin sur les familles qui sont super contentes de faire une bonne opération immobilière en achetant un super loft dans une banlieue et qui sont juste déprimées le premier jour où ils amènent leur enfant à l'école, c'est une réalité. Alors c'est inavouable le pourquoi ils sont déprimés. C'est parce qu'en gros, il y a une forte concentration d'immigration dans l'école là où ils sont, mais ils sont fortement déprimés. Et du coup, soit ils déménagent, soit ils se tapent des temps de transport pour amener leur enfant à l'école. Donc tant qu'il n'y aura pas des infrastructures scolaires qui elles-mêmes organisent la mixité, on ne pourra pas avoir la mixité territoriale, déjà territoriale, même s'il y a une ségrégation par bloc, par je ne sais pas quoi, dans les quartiers. Alors après, est-ce qu'on peut avoir la mixité dans les mêmes immeubles? Je pense qu'en termes de fonctionnement, vraisemblablement oui, mais après, en termes économiques, comment on gère ça? La SEMAPA a voulu vendre à des prix pas chers des appartements d'habitation dans Seine-Rive-Gauche. Il les vendait à l'époque, on était en francs, à 17 000 francs du mètre, alors que le prix à cet endroit-là était plutôt à 25-30 000. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un pactole pour les gens qui ont acheté, c'est tout. Mais les gens qui ont acheté ont accédé à l'idéal petit bourgeois en achetant pas cher, un truc qui était cher. Est-ce que ça participe à la mixité sociale? Non, ça a servi un peu d'ascenseur social pour un nombre limité de gens qui ont acheté. Donc c'est un débat qui est très très difficile, et c'est un débat que les communes ont énormément de mal à avoir aussi dans le tertiaire. En gros, à Paris, il y a un besoin énorme de locaux tertiaires pas chers, espèce de bureaux à loyer modéré. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé la clé de production. J'ai répondu à votre question ? Alors, je vais me poser une question à moi-même. Il y a un point qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais qui est un point qui est très très important. La structure de financement telle qu'on l'a vue là, où en gros, de façon caricaturale, on oppose des gens qui prennent beaucoup de risques et qui veulent beaucoup de rendement. Mais en général, ils font ça assez vite, parce qu'avoir beaucoup de rendement dans la durée, ce n'est pas possible. À des gens qui sont plutôt pépères, qui ne veulent pas de risques et qui se contentent d'un rendement faible, cette structure-là, elle ne cale pas avec le financement de l'aménagement. Pour une raison très simple, c'est que l'aménagement, c'est du risque sur une très longue durée. Et ça, ça n'existe pas. Donc lorsqu'on réfléchit à la problématique du financement de l'aménagement, on a un vrai souci qui est que tant que le financement de l'aménagement s'attache à une opération, à un nombre d'opérations très limité, identifié avec une durée de vie assez longue, ce n'est pas possible. Ce qui est peut-être possible à terme, c'est d'avoir une structure de production foncière qui a plein d'opérations en portefeuille, et qui donc a toujours à l'instant T des opérations qui ont des durées de vie différentes et qui engrange à chaque fois régulièrement des cessions de charges foncières. Mais sinon, c'est très 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 difficile. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir, si on veut migrer vers ça, et je crois beaucoup qu'on va évoluer à une espèce de financiarisation de l'urbanisation et qu'on va réfléchir en termes d'actifs urbains et plus simplement d'actifs immobiliers. Pour y arriver, il faut trouver une espèce de catalyse au départ où il y a une espèce de maîtrise publique du foncier, que le coût du risque foncier n'est pas immédiatement transféré, mais que la production foncière démarre, et dès qu'elle est à peu près opérationnelle pour construire des ailes, là le coût est transféré. Et si on fait ça de façon à large échelle, on peut avoir des acteurs qui vont pouvoir se mobiliser vers le financement de l'aménagement. Sinon, c'est une activité qui va être très très difficile. Et en gros, l'activité qui consiste à faire des réserves foncières, c'est une activité qui est très très coûteuse en capitaux, et c'est très très difficile, qui est très lucrative. Ça, imaginez, le mec qui aurait acheté 3 hectares à Manhattan il y a 100 ans, il serait très richissime. Mais ça prend énormément de temps, et c'est difficile à rendre rentable. Une dernière question, peut-être, avant de faire la pause. Oui.
Je suis investisseur, j'ai un peu d'argent. Aujourd'hui, il vaut mieux que
j'investisse. C'est une question ou une affirmation ?
Ah non, c'est une question, quoi.
Je me mets dans... Parce que c'est vachement important dans les temps qui courent, savoir qui a du pognon et vers qui on peut se tourner pour faire des affirmations.
Il y a des gens qui ont de l'argent, forcément. Non, la question, c'est de savoir, quoi, si je veux un investissement rentable à court terme, il vaut mieux que j'investisse dans de l'immeuble, dans de l'habitation ou dans le CAC 40.
Pour faire, c'est 2-3 ans. Hein. Dans l'immeuble, dans l'habitation, c'est quoi la différence entre l'immeuble et l'habitation ?
Immeuble de bureau, habitation ou le CAC.
Bah, c'est à titre personnel en tant qu'investisseur. Bah, déjà, à titre personnel, tout dépend. Déjà, est-ce que vous êtes propriétaire ou pas déjà de votre habitation ? Parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est l'endroit où on vit et l'achat. De son habitat est un acte irrationnel et un acte qui doit être régi par d'autres considérations que l'efficience, etc. Alors ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est être sûr qu'on ne va quand même pas investir à fond perdu dans un truc qui va perdre sa valeur demain parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a l'aéroport qui passe au-dessus ou que l'immeuble va s'écrouler. Mais au-delà de ça, ça reste irrationnel. Donc, le truc fondamental, c'est de trouver un truc qui est un peu dans le marché, même si c'est un peu plus cher et qui vous plaît. Et donc ça, si vous n'êtes pas propriétaire, devenez propriétaire, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Alors, on peut s'interroger sur le fait de le faire maintenant ou d'attendre. Moi, j'ai tendance à penser que si vous voulez le garder très longtemps, vous pouvez même le faire maintenant. Peut-être que si vous avez attendu 2-3 mois, vous avez peut-être payé 500 euros de moins du mètre, ce qui peut être beaucoup d'argent. Mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir l'acheter parce que quelqu'un l'aura acheté à votre place. Donc, s'il y a vraiment un truc qui vous plaît, qui va vous rendre heureux et vous allez vivre en plénitude, allez-y, lâchez-vous. La bourse, je suis pas forcément bien compétent pour vous répondre parce que à titre d'épargnant personnel, je veux dire, parce que j'ai jamais eu d'action à part les actions des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé pour Goldman Sachs. Donc comme disent les brokers à Londres, c'est pire qu'un divorce parce que ma fortune a été divisée par deux et j'ai encore ma femme. Mais donc les cours ont vraiment beaucoup baissé. Mais j'ai jamais acheté d'actions et j'ai voulu. Des fois, je me dis, c'est pas bien, je devrais acheter des actions et tout, et c'est pas bien. Et je me suis dit, tiens, maintenant je suis chez Lazard, je devrais leur donner un peu d'argent, ils vont gérer mon truc. Et puis je me suis dit, à la fin de l'année, voilà, allez, en janvier, je fais ça. Et comme je suis un peu procrastinateur, je ne l'ai pas fait, et heureusement. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent d'acheter ? Bah, si c'est pour garder les actions pendant 3-4 ans, je pense que oui. Si c'est, mais vous risquez de vous faire mal demain parce que dans les 3 mois à venir, vous allez peut-être perdre 20%. Quoi. Mais il faut avoir le moyen de tenir. Donc tout dépend aussi des besoins de liquidité. Et un immeuble de bureau, je pense que c'est largement au-dessus de vos moyens, donc oubliez.